Radio Galaxy 98.5. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous rencontrons Denis Turel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la communauté de communes du Volvestre. Vous êtes aussi adjoint à la mairie de Carbonne. Et vous êtes aussi directeur général de l'AJH, c'est ça ?
Tout à fait.
Voilà, donc c'est quand même votre casquette de président de communauté de communes dont nous allons parler aujourd'hui. Toutes ces présidences, cet engagement que vous avez pris sur le territoire du Volvestre, c'est beaucoup. Qu'est-ce qui vous a si fortement poussé vers ces engagements ?
Deux raisons essentielles. La première, je me suis engagé à Carbonne avec Guy Hélé. Ancien maire, et qui avait cette phrase importante qui disait « On n'est pas à Carbonne, on devient carboné si on le souhaite ». Et effectivement, très rapidement, je suis arrivé à Carbonne en 1985 et je me suis engagé dans ce territoire en m'occupant de la Maison des Jeunes et de la Culture que j'ai présidé pendant pratiquement 10 ans, ce qui m'a conduit à intégrer l'équipe municipale pour défendre l'idée que notre territoire, et à l'époque notre commune, mérite qu'on s'y engage et qu'on la développe si on veut effectivement maintenir et garder ce vivre ensemble qui est si important pour beaucoup de nos concitoyens.
En tant que président de la communauté de communes, comment est-ce qu'on vit une élection comme celle que vous venez de vivre ?
J'ai envie de dire avec de l'émotion, bien sûr, parce que les deux présidents précédents, c'était Guy Hélé et Patrick Lemal, donc des hommes importants pour notre territoire, qui l'ont marqué, qui l'ont façonné, avec d'autres, bien sûr, on ne fait jamais rien seul.
Oui.
Mais on le vit dès lors que les choses sont préparées, accompagnées, non pas comme une logique, parce que rien n'est jamais acquis, mais comme un combat partagé ou un engagement partagé avec les maires, avec les adjoints, avec les élus, avec la population. Pour que finalement on se dise, est-ce que l'on peut faire un bout de chemin ensemble autour de valeurs collectives, autour de logique solidaire, autour de respect de notre territoire et des communes qui la composent.
Oui, alors je suppose que vous avez beaucoup de travail.
Oui, j'en manque pas.
Je l'imagine. Comment est-ce que vous voyez justement la gestion ? Parce que je suppose que vous allez apporter, ou que vous avez commencé en tout cas à apporter du renouveau.
La communauté de communes, c'est 32 communes, un territoire de plus de 400 km², c'est pratiquement 30 000 habitants. Donc de toute façon, la présidence d'une communauté, c'est avant tout l'animation de plusieurs équipes.
Oui.
D'abord, le conseil communautaire, qui est effectivement l'instance avec les 57 conseils communautaires qui engagent la politique de la communauté. Il y a le bureau des maires, avec l'ensemble des maires du territoire, où effectivement, on partage en amont les projets, les idées, les actions à porter. Et il y a les vice-présidents qui animent au quotidien leur commission pour faire en sorte que les projets qui arrivent en conseil soient préparés, argumentés, budgétés. Et bien sûr, tout cela se fait avec une administration. Et on a la chance, je pense, sur notre nouvelle communauté, d'avoir pu agréger une belle administration qui est au travail, à disposition bien sûr des projets de la communauté portés par les élus.
Oui. Vous héritez, vous, d'un plus grand territoire que vos prédécesseurs. Il y a le tourisme. Est-ce que ça a été difficile justement d'arriver à manager ce tourisme et ces offices de tourisme ?
Non, mais avant de répondre à votre question, je pense qu'il faut un peu le slogan de la communauté, c'est « Nouvelles compétences, nouveau territoire ». C'est-à-dire
oui.
qu'au moment où s'opère la fusion avec les deux communautés, Garonne-Louge
oui.
et Volvestre, donc 28 communes et 4 communes, la loi NOTRe nous confère de nouvelles compétences, notamment celles de la promotion du tourisme, l'action économique, bien sûr, l'habitat que nous avions déjà mais qui est renforcé, la gestion des déchets, la petite enfance, l'aménagement du territoire. Nous aurons pour 2018 la GEMAPI, c'est-à-dire la gestion des milieux aquatiques et des risques inondations. Nous aurons pour 2020 et à partir de 2018 l'eau et l'assainissement. Donc vous le voyez, des compétences qui intéressent nos concitoyens. Et effectivement, l'élargissement d'un territoire plus important, c'est finalement la capacité à mutualiser des réponses que chacun seul, on ne peut pas trouver à l'échelle d'une commune. Mais j'ai envie de dire, une communauté non plus n'a pas forcément le périmètre suffisant. Donc on a la chance d'avoir un pays du sud toulousain, donc un pôle d'équilibre et de territoire, le PETR, qui lui est supra-intercommunal, vu qu'il intervient sur 99 communes présidées par Gérard Roujas, le conseil départemental et notamment notre conseillère départementale Maryse Vezat et Sébastien Vincini qui accompagnent les élus sur le territoire. Donc l'ensemble de ces projets ne sont que des co-constructions dans la mise en œuvre pour qu'ils aient du sens pour nos concitoyens. Et évidemment, derrière cela, il y a la volonté de le porter dans une logique de projet, c'est-à-dire de penser le territoire demain en essayant d'assumer au quotidien nos compétences, mais avec un souci permanent, oui, celui d'une fiscalité juste et de ne pas penser que les projets s'autofinancent naturellement. Il faut toujours bien sûr réfléchir à l'impact que nos décisions ont à l'arrivée sur la levée de l'impôt et sur les concitoyens de notre territoire.
Mmh. Vous avez énuméré toutes ces compétences, justement. Alors, comment ça va se passer, finalement? Parce que vous avez parlé de la petite enfance, vous avez parlé de beaucoup de choses. Mmh. On va commencer, donc, comme on avait dit, avec le tourisme.
Alors, le tourisme, il y avait 3 offices de tourisme, oui, sur le territoire. Un à Carbonne, un à Rieux-Volvestre, un à Montesquieu. Depuis le 1er janvier 2017, il n'y a plus qu'un seul office de tourisme intercommunal, dont le siège est à Rieux-Volvestre, et 2 bureaux du tourisme qui sont dans la même structure, un à Montesquieu, un à Carbonne. Et nous avons là une vraie ambition pour notre territoire, c'est effectivement celle de promouvoir un tourisme de qualité et de faire en sorte que, à la fois, notre territoire soit un lieu de passage vers les grands sites, Luchon, Saint-Bertrand-de-Comminges, les Pyrénées, l'océan, la Méditerranée, quand on vient des différents secteurs, mais aussi que le patrimoine de notre territoire, la vie culturelle, la vie sociale, soient des vecteurs pour les Toulousains, on va dire. Hein. On s'est appelé pendant un temps le poumon vert de la ville rose, que les touristes aient envie de séjourner chez nous, parce que derrière, il y a de la vie économique aussi pour nos entreprises, pour nos agriculteurs. Donc effectivement, il y a la volonté de promouvoir ce tourisme avec l'ensemble des acteurs locaux, qu'ils soient hôteliers, restaurateurs, acteurs du loisir, acteurs de la culture. Donc il y a toute une dynamique qui existait déjà, donc nous n'inventons, oui, rien. Mais par contre, nous la mettons dans une dimension sur un territoire beaucoup plus important et avec une volonté d'en faire un axe fort de cette nouvelle communauté de communes.
Oui. Est-ce que la Via Garonna est un atout aussi pour la communauté de communes et l'ensemble du tourisme?
Bien sûr, la Via Garonna est excessivement importante vu que les chemins de Saint-Jacques ont une histoire effectivement très ancienne et vont drainer beaucoup de populations qui vont cheminer sur nos territoires. Et alors, on a toujours 2 solutions. Soit on voit les gens passer d'un point A à un point B, soit on se dit qu'en passant, ils peuvent s'arrêter, ils peuvent découvrir le bien-vivre ici, découvrir notre patrimoine, avoir envie d'y séjourner, d'y revenir, et d'un seul coup, on a à réfléchir localement d'autres boucles en termes de chemin de randonnée, en termes de vie locale, pour que les gens passent, restent et repartent. Oui. Donc on ne soit pas qu'un lieu de passage.
Alors justement, est-ce que là, il n'y a pas un petit défaut, il y a un petit bémol, on va dire, parce qu'il n'y a pas trop d'hôtellerie ni de restauration sur le Volvestre.
Mais je pense que c'est toujours pareil. Il n'y en a pas trop parce que peut-être qu'il n'y a pas assez de demandes. Et je pense que des projets comme Via Garonna, le développement des chemins de randonnée, le développement d'une offre culturelle, on a le village gaulois, on a un wake park pour les plus jeunes, il y a une activité associative très très riche. C'est cette activité-là qui va générer du besoin.
Oui.
Vous pouvez me croire, si le besoin arrive, les acteurs économiques s'installeront parce qu'effectivement, il y aura une action économique à mener pour répondre aux besoins de ces personnes.
Mmh. La petite enfance.
Alors la petite enfance est une compétence historique de l'ancienne communauté de communes du Volvestre,
oui,
vu que nous l'avons depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, sur notre communauté, c'est 6 crèches. Donc 5 sur l'ancienne communauté de communes du Volvestre, 1 sur l'ancienne communauté Garonne-Louche, donc 6 crèches, qui aujourd'hui répondent à 320 familles, donc c'est quand même relativement important. Nous avons un agrément pour 178 places, ce qui est quand même excessivement important pour notre territoire. Parce que cela a un coût derrière. C'est-à-dire,
oui,
qu'à chaque fois on parle de compétences, tout le monde peut se dire qu'il manque de places, mais je trouve qu'il y en a assez. Nous avons aussi le relais d'assistante maternelle, donc,
oui,
qui est important. Donc là aussi, c'est 193 assistantes maternelles, donc c'est de l'emploi, mmh, qui accueillent et qui ont 351 agréments. Donc vous voyez qu'entre crèche et assistantes maternelles, on est plus de 500 capacités d'accueil pour la petite enfance. Et les crèches est un budget global pour la communauté de 3 millions d'euros et qui est financé par les familles seulement à hauteur de 13%.
Ah oui.
Donc le reste est financé ou par la CAF à 46% et la communauté sur sa fiscalité doit financer 41%. Donc effectivement, c'est un service, c'est un coût. L'enjeu toujours étant que le coût soit en rapport avec la qualité du service qui est rendu sur nos 6 crèches, vu que c'est nous qui les cofinançons largement.
Oui. Oui. Le traitement des déchets qui est lourd aussi?
Alors bien sûr, ça c'est une compétence qui est devenue obligatoire, qui est facultative, nous l'avions déjà, qui est effectivement la collecte et le traitement. Alors on pourrait se dire que c'est uniquement une opération fonctionnelle, c'est-à-dire collecter le déchet et le traiter. Mais il y a aussi un engagement d'éducation et de pédagogie avec nos concitoyens, c'est-à-dire que tout déchet maltraité, c'est du tonnage que nous payons à l'enfouissement.
Oui.
Et donc ça a deux impacts. Ça nous coûte plus cher, donc ça coûte plus cher à nos concitoyens,
oui.
Et ça coûte cher en développement durable pour la planète. Donc il y a vraiment une action forte que nous menons, mais qu'il faut amplifier, notamment avec les enfants, avec les écoles, pour bien comprendre que bien trier aujourd'hui, c'est pas uniquement avoir 2 ou 3 poubelles, mais c'est participer à une meilleure gestion de notre planète et surtout à un coût moindre dans la gestion des déchets. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, avec la technique que nous avons, beaucoup de déchets sont valorisables. Donc quand on prend la communauté, chaque année, nous collectons plus de 6500 tonnes d'ordures ménagères.
C'est énorme.
Sur le territoire. Il y a plus de 20 circuits de collecte. Donc vous voyez bien que tout ça, à l'arrivée, ça rend bien sûr un service très important pour nos concitoyens, c'est-à-dire d'avoir des poubelles qui sont vidées régulièrement. Alors je sais qu'ici et là, en fonction de différents mouvements ou des fériés, on peut être insatisfait du service. Donc on travaille à ce qu'on appelle l'optimisation, mais on peut toujours s'améliorer et nos concitoyens ont raison de nous faire remarquer quand le service n'est pas de qualité. C'est à ces conditions qu'on s'améliore, donc
oui.
Il faut savoir les écouter. La critique est toujours bonne, elle n'est jamais pénalisante pour celui qui sait la prendre en compte. Mais effectivement, on a un vrai enjeu de gestion, de développement de notre territoire. Et c'est ce que les élus, et notamment les vice-présidents et nos services, prennent en charge au quotidien.
Oui, et c'est en tout cas un grand travail, ça. Je suppose que pour fonctionner, vous avez un budget, comme toute institution. Comment vous voyez l'avenir et comment ça va se passer?
Nous avons la chance, avec les deux communautés fusionnées, d'avoir deux communautés qui, effectivement, avait une gestion saine de l'argent public qu'elle collecte, dans le sens où aucune n'est en déficit, aucune n'a de dette qui ne soit pas recouvrable. Et aujourd'hui, la communauté de communes est dans une situation financière qui est consultable. Les budgets ont été votés très récemment, excessivement saines, et qui nous permet de financer nos projets. Bien sûr, la réforme des collectivités locales et la réforme de la fiscalité peut toujours inquiéter sur l'avenir. Mais aujourd'hui, on est face à une nouvelle élection présidentielle. Nous aurons très prochainement un gouvernement. Des réformes sont annoncées qui peuvent nous impacter, notamment sur la taxe d'habitation. Mais je crois que ce sera à nous, à partir des projets, d'arriver à mobiliser les financements et donner du sens à l'action que nous engageons tous les jours sur le territoire.
Oui. Vous l'avez dit tout à l'heure, à partir de 2018, vous allez aussi avoir la compétence de GEMAPI.
Tout à fait.
Donc les cours d'eau, c'est important pour tout le monde.
Bien sûr.
Comment ça va se passer?
Aujourd'hui, nous avons sur notre territoire ce qu'on appelle des bassins versants, c'est-à-dire des rivières qui se déversent dans, pour nous, la moyenne Garonne. Donc nous avons 5 bassins versants, la Rize, la Lèze, le Volp, la Louge, le Touche et la moyenne Garonne. Et on voit bien qu'effectivement, on ne peut pas raisonner sur la gestion à la fois des milieux aquatiques et du risque inondation uniquement à partir d'un petit bout du territoire, parce que ces rivières dépassent le territoire de notre communauté et voire concernent plusieurs communautés. Donc nous allons devoir, et nous sommes au travail là-dessus, dans le cadre de l'aménagement du territoire, travailler avec d'autres communautés pour faire en sorte que ce ne soit pas uniquement ceux qui sont en aval qui se retrouvent à payer la charge du risque inondation et de l'aménagement de la rivière, mais qu'effectivement tous les acteurs de l'amont à l'aval, dans ce qu'on appelle la gestion des milieux aquatiques et du risque inondation, puissent accompagner une gestion, on va dire, intelligente de cette faune et de cette flore, et bien sûr du risque inondation qui est, pour certaines rivières, très important, notamment quand on pense à la Lèze et aux Touches, qui ont quand même des capacités, je ne parle pas de la Garonne, à déborder assez facilement. Donc c'est une compétence très importante dont on pense qu'elle ne pourra pas se satisfaire d'une seule communauté. Donc on travaille avec les différents syndicats de rivières actuellement pour voir quel est le meilleur niveau de gestion pour faire en sorte que les coûts soient maîtrisés, parce que ce sont des coûts qui sont, dès qu'on touche aux berges et aux rivières, ce sont des coûts qui sont excessivement importants. Et pour autant, derrière, il y a des gens qui habitent et donc il faut gérer ces risques-là aussi de manière très responsable.
Justement, pour arriver à contenir ces coûts, est-ce que chaque riverain ne pourrait pas entretenir ce morceau de rive? Ça serait autant qu'il ne vous incomberait pas.
Alors, on va dire, ça peut être le plus ou un risque. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'on a des techniciens de rivière qui vont devoir faire ce travail, c'est-à-dire entretenir une rive ou une berge, ça ne se fait pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'avec la bonne volonté de bien l'entretenir, on peut créer des dégâts plus importants. Donc là, il y a de la réflexion, mais bien sûr qu'on ne peut être que d'accord avec vous sur l'idée qu'il faudrait que si chacun prenait en charge mais le petit bout de rive, le petit bout de trottoir, le petit bout de rue qui est devant chez lui, sur le fait que ça puisse rester propre et tout, et ne pas penser uniquement que c'est quelqu'un d'autre qui va le faire, ça améliorerait le bien vivre ensemble de beaucoup de personnes.
Est-ce que vous avez des projets et si oui, quels sont-ils?
Alors, nous allons lancer un travail très important sur ce qu'on appelle le projet de territoire en se donnant comme objectif 2019-2030. 2019 parce que c'est demain et on a à se préoccuper d'aujourd'hui, c'est important. 2030 parce qu'il faut avoir une perspective qui est en cohérence avec les schémas nationaux et notamment le schéma de cohérence territoriale de l'État, donc qui sera renouvelé pour 2030. Et effectivement, les questions que nous avons à nous poser, c'est comment une communauté de communes à la fois permet le maintien, et c'est indispensable que nos communes existent parce qu'elles rendent un service de proximité à nos concitoyens, et comment la communauté peut mutualiser à des moments, avoir des services comme la collecte des déchets ou la petite enfance qui soient gérés sur un territoire plus large, voire le Pays de Toulousain, pour avoir le bon niveau de gestion. Et de ce point de vue-là, le projet de territoire va devoir aborder tous les thèmes dont on a parlé pour voir effectivement les projets que l'on peut conduire à l'intérieur. On va réfléchir à la compétence enfant-jeunesse, le temps périscolaire et le temps d'activité pédagogique du midi 2. On va réfléchir à la compétence culture en termes de réflexion. On va avoir une action très très forte, et c'est une volonté que je porte avec les vice-présidents, sur l'action économique. Aujourd'hui, nous avons 3 zones d'activité économique intercommunale, 6 qui sont communales mais qui vont devenir intercommunales en 2017. C'est plus de 143 hectares de zones d'activité pour accueillir des entreprises. Nous recevons chaque année entre 30 et 50 porteurs de projets qui veulent s'installer sur nos territoires. Il faut que la métropole toulousaine nous permette de recevoir des entreprises. Ils ne peuvent pas nous envoyer que les habitants. Il faut que les emplois viennent aussi, parce que c'est à cette condition que dans notre territoire, les gens pourront bien vivre. Quand on voit le débat actuel sur une forme de retranchement, de nationalisme, c'est parce qu'effectivement, les gens ont des difficultés. Et je ne connais pas de meilleure solution aux difficultés que de retrouver un emploi ou que les enfants aient un avenir et qu'ils puissent travailler. Donc l'action économique sera une action forte de la communauté pour gérer ces zones, pour que les entreprises viennent et pour qu'elles puissent y venir dans de bonnes qualités. Et bien sûr, tout naturellement, si cela se fait, les équipements des communes, de l'intercommunalité, seront bien sûr au service de cet aménagement du territoire. Ouais. Mais ce sera une action forte de la communauté de communes. Mm-hmm. Et c'est un projet très très fort que nous mettrons dans le projet territoire.
Bon, mais c'est bien. Vous le disiez aussi tout à l'heure, en tout cas vous les avez évoqués, le côté agriculture. Est-ce que justement il y a le zéro phyto? Est-ce que c'est un souci? Est-ce qu'il y en a qui sont venus vous dire oui, mais comment on va faire?
Alors, nous avons mené une action pédagogique dans le cadre de la JADA 21 sur le zéro phyto. Oui. Mais on va dire que c'est une action pédagogique, surtout à destination des enfants. Après, les collectivités locales, les mairies qui ont la gestion de leur territoire s'y sont engagées. C'est un point important. Après, je crois qu'il y a des acteurs économiques, notamment la Chambre d'agriculture, qui mènent avec les agriculteurs cette politique-là à une échelle plus importante, parce qu'effectivement, nos collègues agriculteurs ont effectivement à la fois la gestion de la production de leurs terres et en même temps une gestion raisonnée. Mais je pense que c'est souvent les premiers qui, je pense, sont en capacité à penser un développement durable, parce que s'ils appauvrissent leurs terres trop rapidement ou s'ils y mettent des produits qui ne sont pas bons, derrière, leurs produits aujourd'hui se vendent moins, vu que les gens veulent du circuit court. On va de plus en plus ou vers du bio ou vers de la qualité. Et je pense que là, il y a finalement la raison qui va ramener tout le monde à une saine gestion des ressources que nous avons. Et je pense que de ce point de vue-là, le travail que nous pouvons nous accompagner, mais nous sommes qu'un acteur parmi d'autres, sur le développement de nos territoires, des centres-bourgs à la ruralité, sont effectivement importants pour que tout le monde ne quitte pas nos territoires. Il faut que les gens restent. On vit bien dans le Volvestre.
Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez aussi un impact en tant que communauté de communes sur justement les nouvelles constructions qui vont se faire, les nouveaux habitants qui arrivent qui...
Alors, nous avons eu ce débat, la gestion, ce qu'on appelle les plans locaux d'urbanisme, qui était une capacité que les communautés pouvaient prendre en termes de compétences. Nous ne l'avons pas prise. Pour l'instant, parce que nous avons considéré avec l'ensemble des maires que cette compétence était une vraie compétence communale.
Oui.
C'est-à-dire, les concitoyens, quand ils construisent sur une commune, ils veulent voir le maire. Ils ont des réponses, ils ont leurs enfants à l'école. Et donc, cet ensemble cohérent, c'est-à-dire de l'école, de la vie locale, des centres-bourgs, des villages, quelle que soit leur taille de notre territoire, si on ne veut pas que les villages se vident, il faut que les maires aient... et garde ses compétences de proximité, parce que c'est à cette condition que la proximité permet de trouver des réponses intelligentes. Dès que vous multipliez le territoire sur des échelons de réponses trop importants, vous générez de la frustration parce que les réponses sont des fois malheureusement trop administratives.
Oui.
Donc moi je crois beaucoup à la proximité. Par contre, quand on peut mutualiser pour avoir des réponses plus intelligentes, et je pense que tout le monde y est prêt, il faut le faire. Et la communauté est une instance où on peut, sans transférer des compétences, mutualiser des projets. Nous sommes en train de le faire, vu qu'aujourd'hui une loi nous amène à devoir avoir un plan d'amélioration de la qualité de l'air dans les écoles. Les 16 communes qui ont des écoles se sont mutualisées, c'est la communauté qui les a aidées pour lancer un marché, pour avoir une action sur l'analyse de l'air dans les écoles. Donc c'est la mairie qui bien sûr garde les compétences au niveau des écoles, mais la communauté a géré la politique de commande groupée pour cette réponse-là. Donc vous voyez, les solutions sont possibles dès lors qu'il y a la volonté de travailler sur le territoire, et je dois dire... En tant que président, moi j'ai la chance de présider un conseil communautaire où effectivement tout le monde travaille dans le même sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition politique. On essaie à chaque fois de savoir est-ce que les mesures que nous prenons sont bonnes pour le territoire, pour les communes et pour les gens qui y vivent.
Oui.
Tant qu'on garde cette logique-là et ce bon sens, je pense qu'on peut aller très loin.
Alors vous le disiez aussi, on est en train d'avoir un nouveau gouvernement. Est-ce que ça, c'est difficile pour vous, ce laps de temps où vous allez pouvoir enfin travailler librement? Parce que vous sortez de l'élection et vous avez l'autre élection qui vous... pas qui vous bride, mais qui vous met en attente un petit peu encore.
Ce qui est complexe, c'est pas tant le fait qu'il y ait un nouveau président ou un nouveau gouvernement. On sera temps de voir les mesures, on essaiera chacun à notre niveau de peser pour qu'elles aillent dans le sens de ce qui est attendu par nos compatriotes. Ce qui est complexe, c'est d'avoir le sentiment de changer en permanence et de ne pas avoir la visibilité nécessaire dans l'évolution des grandes lois qui structurent notre pays et des politiques publiques. C'est-à-dire qu'on sort d'une loi NOTRe qui a été faite un peu en précipitation, que l'on gère un peu en précipitation. On arrive dans une élection où il y aura évidemment, et on peut le penser, des modifications qui vont impacter les communes et les communautés. Dès que ces éléments seront en place, il y aura les élections municipales qui vont arriver. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin, en tout cas moi, je, en tant que président et avec mon conseil, on a besoin d'avoir un peu une vision. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous demander de porter du projet, de porter de la stabilité fiscale et en permanence, sans qu'il y ait une réelle réflexion, nous transférer des compétences sans la ressource, uniquement avec les charges, en nous demandant de nous débrouiller avec nos concitoyens pour essayer de faire passer la pilule, passez-moi l'expression.
Oui.
Donc, il y a nécessité aujourd'hui quand même que le bon sens et la raison l'emportent sur, on va dire, une façon un peu rapide de gérer les politiques sur nos territoires.
D'accord.
Vous me demandiez au début présider la communauté, c'était complexe.
Oui.
Et en fait, pour conclure, j'ai envie de vous répondre, dès lors que les gens prennent plaisir à travailler ensemble, et savent pourquoi ils travaillent ensemble et quels services ils veulent rendre à la population, c'est pas complexe de travailler.
Donc vous êtes un président heureux ?
Je suis un président heureux, oui.
Eh bien, bravo. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci à vous.
Radio Galaxy 90.